Si tu veux ce verre, oblige-moi à te le donner. Utilise la voix.
Mère, je viens de me réveiller. Donnez-moi tout de suite cette eau.
Ce verre ne t'entend pas, c'est moi que tu dois soumettre.
Donnez-moi tout de suite cette eau.
Tu y étais presque.
Quoi, presque seulement?
Il faut des années pour maîtriser les facultés Bene Gesserit, Paul.
Thank you. Il a fallu quelques années pour maîtriser les facultés du Bene Gesserit. Il a fallu attendre 3 ans avant de voir la deuxième partie de Dune au cinéma. Ça va être notre ciné-débat du jour avec autour de la table ce matin. Un peu les mêmes que d'habitude, mais pas tout à fait les mêmes que d'habitude, puisque j'ai Amaury et Emma. Du noyau dur de la team balistique.
Bonjour, bonjour.
Salut tout le monde. Et en invité, on a Antonin.
Salut, bonjour.
Salut, bonjour. Les deux, car il est bien élevé, bien éduqué. Ouais. Emma, t'as bien fait de nous l'inviter. Il y a un bizutage, n'est-ce pas, Amaury?
Oui. Alors, si je l'ai passé, c'est que le niveau, il n'est pas trop élevé. Hein, ça passe.
Alors, dans quelques instants, on parle de Dune 2, le chef-d'œuvre ou pas de Villeneuve. On se rappelle que le monde entier se remettait de sa pandémie, de la pandémie, et que bim, 2021, Villeneuve arrive avec ce petit bijou visuel qui était le premier volet de Dune. Et le monde entier, en fait, n'est pas au courant, mais on va le révéler. Et voilà, carton plein aussi ce jour-là pour... la première d'Amaury en studio qui nous a quand même fait en apnée 45 minutes sur Dune. Emma, on s'en souvient.
Oui, voire une heure d'émission. Moi, exploit... Deux émissions enregistrées en un jour.
Absolument, exploit sportif. Donc je voulais quand même souligner ce bel anniversaire, pas tout à fait, mais Amaury.
Sous le regard atterré de mes collègues, et je ne comprends toujours pas d'ailleurs comment vous avez fait pour me garder suite à ça.
Et c'est ça le bizutage en fait.
C'était ça le bizutage.
Okay, faire 45 minutes non-stop.
Alors, pas
j'aurais pu faire plus.
Non, parce que si tu veux, Antonin, le bizutage, c'était, on lui avait donné 12 minutes.
Ah, d'accord.
Il a fait 45, il a un peu dépassé, mais bon. Donc, sorti en salle retardée, puisqu'il y avait la grève d'Hollywood, et puis suite de films, généralement pas forcément gage d'un carton plein. Le premier a fonctionné, c'est pas dit que le deuxième fonctionne, pourtant il a fonctionné. Donc première question pour vous trois, est-ce que le film a répondu à vos attentes? Est-ce qu'il a tenu ses promesses? Et surtout, est-ce qu'il est resté fidèle à l'auteur d'origine?
Alors, pour recontextualiser un petit peu, déjà, le premier film, c'était pas un tout, c'était vraiment la première partie de l'adaptation d'un seul et unique livre. Donc, au final, s'il a peut-être aussi bien marché, et il marche effectivement mieux que le premier, c'est vrai que c'est peut-être le fait qu'on voulait simplement aussi avoir la suite et la fin de l'histoire. Donc, pour quand même te répondre, j'avais été enchanté du premier volet qui dépassait vraiment mes attentes, parce que le travail d'adaptation, enfin en tout cas on se rappelle du film de Lynch qui était un petit peu hors sujet.
Après si tu prends comme repère le film de Lynch, on est bon, on n'est pas mauvais.
Ben si, moi je l'avais trouvé plutôt mauvais le film de Lynch.
Oui, non mais justement, justement on pouvait, j'ai presque envie de dire c'est affreux pour Lynch, mais on pouvait...
Oui, mais justement, voilà, là c'est vrai que j'avais vraiment cette peur qu'on retombe dans les travers de l'adaptation lynchienne qui était complètement à côté de la plaque, et là mes attentes avaient été totalement comblées, voire dépassées, et ça s'est renouvelé sur ce deuxième volet.
Emma ?
Étoile dans les yeux pour le premier volet, c'est sûr, c'était incroyable comme univers. Le 2 est tout aussi beau, tout aussi réussi avec la musique, les effets spéciaux. Par contre, pas d'effet de surprise pour moi. On est sur le même niveau, il n'y a pas d'escalade et je trouve ça un peu dommage.
Et Antonin, toi du coup, tu as vu aussi les deux films ?
Étoile dans les yeux tout partout. J'ai pu revoir le 1 juste avant d'aller voir le 2 au ciné, enfin 2 jours avant. Et j'ai repris une claque en revoyant le 1, et le 2, moi, m'a remis une autre claque, mais pas pareil, la claque.
Ouais. C'est la même maîtrise dans les deux, ou est-ce que le deuxième volet est un film plus, ou l'équivalent du premier, en fait?
Je pense que déjà qu'on est dans la continuité, hein, c'est vraiment la deuxième partie d'un même film. Et du coup, les deux films sont faits pour être regardés l'un à la suite de l'autre. Le premier, il y avait peut-être aussi ce côté découverte aussi de l'univers avec cette nouvelle planète, les planètes Arrakis, surtout Arrakis, et avec aussi les conseils des Bene Gesserit, etc. Peut-être que finalement, le fait que la découverte soit passée sur le premier film, et il y avait peut-être une arrivée sur le deuxième film pour certains où les étoiles dans les yeux, vous les avez eues pour le premier et pas pour le deuxième, parce que c'était simplement la continuité de ce que vous aviez déjà vu.
Bah peut-être justement, c'est ça, c'est une continuité, et c'est vrai que quand on a une suite, même si en effet là c'est la suite d'un même livre, on attend quand même une certaine escalade, en fait on attend...
Plus de consistance en fait dans de l'univers de Dune.
Ouais, plus de quelque chose de moins lisse. Voilà, il manquait un grain. Il y avait vraiment beaucoup d'originalité quand on voyait les Arconiens. Mais sinon, après pour toute la partie où on suivait Paul, c'était vraiment à part 2-3 scènes avec les vers. Sinon, c'était très ouais, très lisse et ça manquait de substance pour moi.
Pourtant, on est dans la maturation du personnage, en fait. Alors, on est dans la maturation, c'est ça qui est un peu drôle, du personnage de Paul, mais on est aussi dans la maturation de l'acteur, enfin, du jeu de Chalamet, parce qu'il est encore jeune, et c'est assez étrange. Enfin,
J'ai trouvé, justement, que son jeu, on voyait quand même la différence entre le premier volet où il arrive sur la planète et qu'il perd quand même peu à peu, enfin il perd tout ce en quoi il croyait, et l'arrivée, enfin en tout cas la finalité où il incarne complètement justement l'empereur qui va devenir, où on voit quand même une bascule dans son jeu. Je voudrais juste quand même revenir sur ce que tu disais sur en tout cas, toute la partie sur les Harkonnen qui, effectivement, au niveau... ça dénote par rapport au reste du film. Il y a vraiment cette façon dont c'est filmé en noir et blanc, qui est un faux noir et blanc, avec un travail sur les textures.
En infrarouge, en fait.
Et c'est vrai, ouais, que c'est finalement quelque chose qui, sans être du jamais vu, ça tranche avec le reste du film, et il y a vraiment cette partie où les Harkonnen en noir et blanc d'un côté et le côté vraiment très ocre, très, très jaune de la planète Arrakis.
Mais cette ambivalence justement elle est déséquilibrée, parce qu'on a au final par exemple le personnage de Fed Rota, qui est quand même au final un des antagonistes de cette deuxième partie, avec Austin Butler qui a un charisme et une performance incroyable. Ce personnage au final on le voit peu, et je trouve ça dommage. On pouvait l'exploiter plus. Ce que je regrette vraiment, c'est que le film ne dure au final que 2h45 à peu près. Il y avait possibilité d'aller jusqu'à 3h. Il n'y a aucun souci au niveau du suivi des spectateurs. On voit bien aujourd'hui que les films sont de plus en plus longs, que le public aime ces films longs. Je pense qu'on a aussi l'habitude avec tout ce qu'on binge-watch sur Netflix. Donc il n'y a pas la peur aujourd'hui de faire des films longs. Et je ne comprends pas pourquoi Denis Villeneuve, en fait, n'a pas décidé de pousser un petit peu plus loin, justement de prendre ces personnages, ces nouveaux personnages, celui de Austin Butler, celui de Florence Pugh, et de déjà leur mettre un petit peu plus... parce que Florence Pugh, par exemple, bon, elle ne sert à rien, la pauvre. Hein.
Après... dans le livre dont il est su, c'est des personnages qui sont très très mineurs, surtout celui de Florence Pugh, oui. Qui en fait il apparaît surtout dans les avant-chapitres où elle raconte l'histoire, mais elle arrive qu'à la fin. Et au contraire, j'ai trouvé que Denis Villeneuve lui avait donné des scènes qui n'existaient pas dans le livre, un peu plus de consistance pour préparer une éventuelle suite qui a été donc d'ailleurs confirmée récemment, heureusement, enfin en tout cas j'en suis le premier avis. Donc, créer peut-être des arcs un peu artificiels qui n'apparaissent pas dans le livre initial, je vois pas vraiment l'intérêt. Il ne faut pas oublier que c'est le voyage de Paul.
Oui, mais ce n'est pas des arcs. Et puis, justement, au final, quand même, Villeneuve s'éloigne quand même un peu de l'œuvre originale, ne serait-ce que pour donner à Shani plus de présence. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, dans les livres, elle n'a pas trop d'importance non plus. Elle finit vite, elle tombe enceinte assez rapidement. Pour moi, elle a les enfants de Paul. Et puis, bon, bah, elle ne fait pas grand-chose d'autre, en fait. Alors que...
Parce que là, le personnage de Zendaya, ouais, prend de l'épaisseur dans le film, très clairement. Alors qu'on l'a vu enfin, on l'a entreaperçu dans le premier volet, alors que là, quand même, elle a un rôle...
Alors, le personnage de Shani, justement, c'est ma plus grosse surprise du film, et la plus grosse divergence avec le matériau de base. Son arc, en fait, il n'a rien à voir avec effectivement.
C'est un problème là, ou c'est réussi, ou c'est un problème ou...
C'est pas. Alors, c'est juste que je me pose vraiment la question, comment ils vont raccrocher les wagons avec la suite. Parce que la fin de ce qui arrive à Shani, donc dans le film, c'est à l'opposé total de son destin dans le livre. Et donc là, du coup, je suis assez surpris. Et par contre, à contrario, certains passages que je pensais seraient dans le livre, notamment, tu vois, tu parlais qu'elle portait les enfants de Paul. Il y a toute une toute une partie comme quoi effectivement Shani tombe enceinte, qu'elle a un fils qui finalement est tué par les Sardaukar, ça n'apparaît pas dans le...
Oh, je viens de me faire spoiler.
le livre il est sorti il y a 60 ans, donc bon, est-ce qu'on peut parler de spoiler quand sur un matériau qui est aussi vieux? Alors je suis désolé, effectivement, peut-être il faudra peut-être mettre une grosse alerte spoiler à ce niveau-là, donc j'en suis navré. Mais oui, ça effectivement c'est un gros changement par rapport au matériau de base. Maintenant, faut aussi voir que la temporalité a été extrêmement modifié.
Étiré ou...
Ah non, au contraire.
Parce que y a
le rythme est plus soutenu et rapide que dans les livres, forcément. Ou...
On est d'accord, il y a un saut de 5 ans à peu près entre le moment où Paul rejoint le peuple de Shani et où devient empereur, alors que là, ça
alors,
passe...
Alors, 5 ans, peut-être pas, mais en tout cas, plusieurs années, oui. Ça, c'est sûr, effectivement.
Dans le livre ?
Dans le livre, okay. Oui. Puisqu'effectivement, Jessica donne naissance donc, à Alia.
Parce qu'elle aurait pu accoucher 1000 fois dans le film.
Elle aurait pu accoucher 1000 fois. Après, peut-être que le changement, justement, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a surpris. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. Le fait que Alia ne soit pas née et que Jessica parle avec son fœtus vraiment directement dans le ventre, ça lui donne un côté complètement flippant.
C'était hyper glauque.
Oui, tout à fait.
J'étais pas du tout à l'aise.
Et je suis pas sûr que filmer une petite fille de 2 ans qui ait un rôle, qui se comporte comme une adulte, ce soit très très crédible à l'écran.
Non mais justement, Herbert, voilà, c'était il y a 60 ans, la place des femmes, c'était pas sa priorité, clairement, donc aujourd'hui, si on va avoir Zendaya dans un film, on va lui donner un autre rôle que la copine de Paul qui pond ses gosses et qui fait pas grand-chose d'autre. Donc si on peut faire évoluer le personnage de Shani pour que ça soit une représentation plus moderne, pour que justement Zendaya, elle puisse donner toute place à son immense talent, pourquoi ne pas avoir pris quelques divergences et avoir aussi osé mettre plus de difficultés entre Paul et Fedrota, par exemple, tu vois, parce qu'on s'est quand même bien éloigné du roman, on n'a pas du tout la même temporalité, donc au final, est-ce qu'on n'aurait pas pu rallonger un peu parce que Paul arrive, Paul devient le prophète et Paul triomphe quand même très très rapidement dans ce film.
Oui, c'est vrai, et effectivement il y a certains, notamment le combat final que j'ai trouvé très rapide,
voilà.
Et qui d'ailleurs...
Mais intense, hein. J'insiste parce qu'on était quand même sur notre siège.
Ouais, intense, mais il aurait pu l'être justement, là pour le coup, s'il avait respecté, s'il s'était plié vraiment à ce qui est écrit dans le livre d'origine, là il aurait été encore plus intense, il y avait je vais faire un petit spoil encore, je suis désolé,
ça va.
Mais voilà, normalement il y a la lame qui est empoisonnée, Paul est empoisonné, il combat le poison donc par son enseignement Bene Gesserit, et là en fait non, il se prend une lame, après il la retourne. Et voilà, c'est un peu facile, c'est un peu rapide, et d'une manière générale, le dernier acte, le combat final, aurait pu être un peu plus épique, on aurait pu rallonger un petit peu la sauce maintenant.
Ouais, d'où la demi-heure réclamée par Emma.
Voilà, notez qu'Amaury finalement dit la même chose que moi.
Oui, mais je suis quand même partagé, parce que... le combat, en fait, finalement, le livre, il n'est pas épique au sens où ce n'est pas des grosses batailles, où on se tire pas dessus à longueur de temps. La bataille finale, d'ailleurs, dans le livre, elle n'est pas du tout relatée. Hein. C'est juste un personnage qui arrive, ça y est, on a mis à sac, Rabban est mort, on a réussi à battre tout le monde, et voilà, il ne se passe strictement rien de décrit dans le livre.
Mais c'est peut-être là aussi, Emma, je t'ai coupé, pardon.
Non.
Mais c'est peut-être là aussi, je suis en train de repenser aux propos de Spielberg et de Peter Jackson en voyant Dune, qui disait que ça y est, Villeneuve jouait dans la même cour qu'eux. C'est vachement sympa de dire ça, mais quand j'ai vu les batailles dans le deuxième volet de Dune, je me suis revue au Mordor, je me suis revue au Gondor. Est-ce que c'est exagéré de penser ça? Parce que...
Oui.
D'accord. Ah ouais, c'était pas pour
oui,
toi.
Oui, pour moi, effectivement, le Gondor, la bataille du gouffre de Helm ou les champs de Pelennor, là, c'était effectivement, on était un peu accrochés à notre siège, et je crois que ça durait une heure, hein, facile. Hein,
ouais. Il y a pas la même, il manque d'intensité, ça rejoint mon ressenti au niveau du rythme. Je ne demandais pas une bataille décrite, c'est pas ce que je recherchais, mais par contre, l'intensité du duel, le moment où Paul triomphe, le moment où Paul devient empereur, ça méritait un petit peu plus, ça méritait plus, tout simplement. Et je vraiment vu Le succès quand même de l'année dernière, c'était Oppenheimer, c'était 3 heures. Le succès de tous les temps au cinéma, c'est Avengers, c'est 3 heures. Ton film préféré de l'année dernière à Maurice, c'est Killer of the Flower Moon, c'est 3 heures et demie. Villeneuve, il arrive, Villeneuve, il savait, avec tout ce qu'il avait, il pouvait pas se planter. C'était impossible que Dune 2, ça soit autre chose que
épique. Après, il s'est pas planté.
Ah non, justement, il s'est pas planté. Il savait que quoi qu'il fasse, ça allait être épique et qu'il allait réussir. Donc pourquoi ne pas avoir pris un tout petit peu plus de risques et d'avoir poussé jusqu'à 3 heures et avoir donné le rythme final, tu vois.
Il a fait des choix entre le personnage de Zendaya qui se développe, la vie des Fremen aussi, on n'en a pas encore parlé, mais il a fait ce choix-là aussi de nous montrer ça. Dans le livre aussi, ça apparaît, c'est très développé.
Ça apparaît, effectivement, et à contrario, il a développé aussi des choses que...
Et ça, c'est un choix pertinent pour le film, où vous auriez préféré de laisser ça un peu de côté pour développer justement les éléments scénaristiques auxquels vous faites allusion, là.
Non, parce que, en tout cas, la vie des Fremen, c'est important de voir ce mode de vie qui est avec l'eau qui est au cœur de tout, parce que l'eau c'est vraiment, alors que c'est, on est dans un désert, mais ça ne fait que parler d'eau au final, et de trancher justement avec la vie de cour à laquelle Paul a été habitué toute sa vie. Donc c'était effectivement important de voir cette culture, de s'étendre là-dessus, de voir justement Paul qui l'intégrait progressivement, qui s'en sert d'ailleurs à de nombreuses reprises pour arriver à ses fins, parce que c'est ça hein, d'ailleurs le sujet, le cœur même du film. Et pour le coup, la prise de risque de Villeneuve, elle a été là, c'est d'être beaucoup moins noir et blanc que dans le livre, mais d'être beaucoup plus gris sur le personnage de Paul.
C'est un film maîtrisé dans la nuance, en fait.
Dans la nuance et dans le côté j'explique au spectateur sans le prendre par la main. Et le rôle de Chani, d'ailleurs, je le vois comme ça. C'est un peu le reflet de ce que peut penser le spectateur face aux actions de Paul.
Mais est-ce que Emma, c'est pas un peu le contraire que tu disais en disant que c'était lisse et qu'au contraire on nous emmenait dans un univers lisse et qu'on te prend finalement par la main, non ?
C'est un peu l'impression que j'ai eue. Pour moi, l'évolution de Paul, elle est flagrante depuis le début. On sait ce qu'il attend, on sait depuis le début qu'il lutte, et la façon, en fait, le moment où il bascule, je trouvais justement que ça manquait là encore d'intensité, parce qu'on savait qu'il allait basculer, et il lutte vraiment de toutes ses forces pour ne pas basculer, et le moment où il bascule, c'est vraiment la fin du film, et là encore j'aurais voulu un tout petit peu plus.
Est-ce que ce moment où il bascule n'est pas encouragé par quelque chose que j'ai bien aimé dans le film, c'est la mise en scène, la montée du fanatisme? Est-ce que c'est pas ça qui porte Paul justement et qui fait basculer rapidement? Je sais pas, c'est...
Après, le fanatisme, c'est effectivement au cœur du film. Hein. On voit qu'il est un peu dépassé justement par ce qu'il engendre, qu'il y a des graines qui ont été posées là par les générations précédentes et qui s'en sert. Et sa mère qui s'en sert, effectivement. On est dans la manipulation des masses la plus totale. Et j'ai trouvé, effectivement, Paul a peur de ce qu'il va provoquer. Finalement, il est succombe parce qu'il n'a pas le choix. Et je rejoins tout à fait Emma sur cette bascule. Et finalement, ça m'embête parce que je me rends compte que je suis d'accord avec toi. Parce que les deux moments qui auraient...
Pour écouter plusieurs fois les émissions et les montées, etc., c'est souvent que ça arrive. Hein.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a deux passages qui auraient pu effectivement être... ou aller plus loin, c'est la fin avec le duel et cette bascule avec l'eau de vie qui est prise. Et je vais pas dire que c'est un pétard mouillé, là on n'est pas là-dedans, mais disons que ça sentait, en tout cas c'est comme ça que je le vois, Denis Villeneuve qui s'en garde un petit peu sous le coude, un petit peu sous le pied pour le troisième film qui va arriver, où pour le coup la préscience, le côté hop j'ai des visions, je vois tout ce qui va se passer, pour plus l'exploiter par la suite, et que c'est peut-être pour ça qu'il a été un petit peu sur la réserve.
J'espère du coup, parce que c'est vrai que là le 1 était incroyable, le 2 est incroyable, mais il n'y a pas l'escalade, donc j'espère vraiment que dans le 3 il va tout donner pour que ensuite, si un jour on fait vraiment une soirée d'une et qu'on regarde 1, 2, 3, en fait ça glisse tout seul et qu'on se dise non, en effet le 2 c'est juste le centre, mais le 3
j'ai même pas de doute là-dessus, moi, tu vois, mais...
J'ai un petit maintenant, parce que le 2 est-ce que vraiment il garde sous le coude, comme dit Amaury, ou est-ce que vraiment il n'a pas été au bout,
sachant que Amaury a bien précisé que c'était pas une suite, c'était une continuité. Donc si j'ai bien compris, ce qu'on va appeler communément le Dune 3, c'est un autre arc, en fait.
Alors,
est-ce que justement, Emma, on va pas être il n'y aura pas cette lassitude qui va s'installer parce qu'on va passer à autre chose.
Du coup, je vais répondre ce que Amaury allait dire. En fait, le tome 1 et le tome 2 de Dune, c'est un arc en lui-même. En fait, ouais. Le premier film, ça équivaut à la moitié du premier tome. Le deuxième film, ça équivaut à la fin du tome 1. Où on s'est quand même bien éloigné de la fin du tome 1, et le tome 2, en fait, ça aurait presque pu être un tome 1 entier, le tome 1 et le tome 2, au final, c'est ça l'arc, c'est un arc entier, et après, avec Dune 3 et Dune 4, on part sur les descendants de Paul, si je dis pas.
Oui, effectivement, après, c'est plus Leto, mais je pense qu'ils vont jamais aller sur les enfants et sur l'Empereur Dieu, parce que je vois pas comment ils peuvent adapter un ver géant en personnage principal.
Donc du coup, la partie 3, ça sera quand même une continuité, vu que Dune 1 et Dune 2 en livre sont déjà une continuité en eux-mêmes.
Et en fait, le Dune 3, donc le Messie de Dune, finalement, il a été écrit par Herbert parce qu'il s'est rendu compte que beaucoup de ses lecteurs n'avaient pas compris le message qu'il avait voulu faire passer avec justement cette montée du fanatisme, avec le côté de cette idée de ne pas faire confiance au sauveur qui va résoudre tous les problèmes. Et quand je disais justement que c'était un peu noir, tout blanc, et que Denis Villeneuve, il a été plus gris, il a été beaucoup plus explicite sur les dangers que peut représenter Paul en arrivant au pouvoir. Et Herbert, il a écrit donc le Messie justement pour expliquer, pour exploiter les causes, enfin en tout cas les conséquences plutôt de la montée au trône, sur le trône de Paul. Et en soi, je suis très curieux de voir ce qui va se passer, enfin en tout cas comment il va le faire, parce que au niveau péripéties, on va dire, il ne se passe pas énormément de choses dans le Messie. Donc je suis curieux, vraiment très très curieux de savoir.
Bah, c'est là justement où Herbert, moi là je vais l'attendre vraiment au tournant, parce que justement...
Ou Villeneuve?
Villeneuve, merci. Non mais Herbert, je l'attends dans sa tour, voilà.
Pour l'attendre au tournant,
qui vient de m'expliquer deux, trois choses. Voilà. Non, Villeneuve, je vais attendre Villeneuve au tournant, parce que justement, pour moi, le 2, il est un peu trop lisse, et dans le 3, toute l'ambiguïté du personnage de Paul va devoir se développer. On va devoir montrer énormément de choses sur sa personnalité, sa psychologie, sur ce fanatisme. Et si là, il ne va pas au bout des choses,
il va falloir faire émerger sa violence. Oui,
voilà,
c'est ça.
Si là, ça reste trop lisse, ouais. Moi, je pense qu'il va se monter.
Oui, bah, déjà, je pense qu'effectivement, il va montrer le djihad plus que... Enfin, en tout cas, le djihad va être montré, contrairement au livre dont c'est écrit, enfin, dont c'est tiré. Je pense aussi qu'il a semé certaines graines pour les exploiter dans la suite. Je pense notamment au personnage de Léa Seydoux, Margot Fenring, qui apparaît effectivement dans le livre, mais dont l'arc, finalement, il sert à rien. Là, je pense qu'il n'a pas été mis là par hasard. À mon avis, il va essayer justement d'accrocher, justement, peut-être d'écrire des arcs qui n'existent pas dans le livre. Donc voilà, on verra. En tout cas, je suis très, très curieux. J'ai toute confiance, vu ce que j'ai vu. Donc on verra.
Oui, mais en fait, c'est ça. Je pense que le 2, il faut vraiment le... Enfin, il savait très bien qu'il allait faire un troisième film au moment où il a sorti au moment où même il a écrit le 2.
C'est juste pas quand, en fait.
Ouais, je pense. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment ce truc de... Que, genre, ce qu'on a vu là a été pensé et réalisé par Denis Villeneuve comme un truc avec quelque chose qui va suivre derrière. Et donc, forcément, ce côté... Enfin, c'est... Lui, il sait ce qui va arriver après. Et nous, on le sait pas. Et ça peut nous laisser un peu ce truc... de nous laisser sur notre fin. Moi, je pense que un truc qui aurait pu être problématique, si par exemple on avait, je sais pas, rallongé le combat dont on parlait tout à l'heure, le combat final, ou encore plus montré la transition de Paul, ça pouvait aussi enlever ce que Denis Villeneuve avait vraiment envie de montrer, c'est-à-dire, mais en fait, c'est un con. En fait, Paul Atreides, voilà, ça va devenir un dictateur, un tyran, il va faire mourir beaucoup de gens, etc., etc. Mais non, mais je veux dire, en fait, on le voit dans le film. Et du coup, Si on montrait sa transition plus longuement, et ben en fait, on allait peut-être se retrouver avec le problème qu'a eu Frank Herbert avec les livres, c'est-à-dire qu'en fait, les gens allaient sortir en disant waouh, Paul Atreides, trop bien, quoi. Et tu vois, et je pense qu'en fait, il a voulu à tout prix éviter ça. Et ne pas se retrouver dans la situation de devoir faire le troisième film.
Qu'on se trompe sur les intentions de Paul et sa personnalité.
Exactement. Et du coup, en fait, je pense que Denis Villeneuve n'a pas voulu se retrouver dans la situation de devoir faire le troisième film comme Frank Herbert a fait le deuxième bouquin, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est-à-dire pour dire, mais non, mais en fait moi, je ne suis pas pro-Paul Atreides. Au contraire, je voulais dénoncer ça. Et du coup, J'ai l'impression que si on nous le présentait plus héroïque, avec plus de bagarres, etc., etc., on allait plus prendre son parti. Alors que là, ce truc un peu plus lent, ça nous montre aussi, typiquement, toute la partie fanatisme, etc. Et j'ai trouvé ça justement intéressant. Et effectivement, ça va être encore plus cool de le voir, de revoir ça quand on pourra voir le 3 à la suite et et comprendre l'intention globale, quoi.
Donc finalement, tu viens de faire un peu comme Emma et Amaury, tu réunis les deux propos, parce que si j'ai bien compris ce que tu nous as dit, Antonin, tu trouves que c'était judicieux de la part de Villeneuve de développer toute l'ambiguïté de Paul et de prendre son temps sur ça, et pas justement s'étendre sur le côté manichéen de la chose lors du combat, par exemple.
Bah peut-être.
Justement, pour laisser une ouverture sur le prochain. Emma ?
Alors moi, pour le combat, c'est pas le côté manichéen, justement, c'est vraiment ce personnage de Fed Rota,
oui,
la performance d'Austin Butler. Je comprends pas pourquoi il disparaît aussi vite.
Mais en fait, c'est ça, t'en voulais plus, quoi.
Il est extraordinaire.
Il est extraordinaire. Quand t'as un diamant comme ça dans la main, pourquoi tu le balances à la poubelle, en fait, aussi vite ?
Mais après, à mon sens, c'était nécessaire qu'il meure à la fin de ce film-là, parce que il est aussi une étape dans le truc de Paul et tout. Oui, en fait, t'aurais voulu plus le voir en amont, quoi.
Cet homme est monstrueux, en fait. Voilà, j'aurais voulu voir plus en amont.
Mais moi, de ce que j'ai vu de lui, ça m'a déjà bien dégoûté. Mais je vois ce que tu veux dire.
Mais justement, je pense que la performance de Simulator, elle est réussie. Et puis, Denis Villeneuve, il a bien saisi, parce que en peu de temps à l'écran, finalement, on a pu déceler à quel point son personnage était glauque, détestable. Et pourquoi rallonger la sauce pour dire des choses qui sont déjà dites, qui sont déjà visibles précédemment?
Parce qu'il est si fort que justement, moi je trouve que ça, au final, ça va contredire un peu ce que Antonin disait, que Paul,
finalement, vous n'êtes pas d'accord.
C'est pas un super héros. Et il gagne si facilement contre quelqu'un qui est si glauque et qui a l'air si dangereux. Moi, justement, c'est ça. Paul, pour moi, c'est pas un super-héros. C'est en effet un type pas sympa qui va devenir très con et qui est vraiment la représentation du sauveur qui a pas sauvé grand-chose au final. Donc, en effet, pourquoi... en fait, moi, je trouvais justement que la bascule sur Paul, elle était trop légère. C'est quand même le gars gentil qui lutte contre ses émotions pendant trois quarts du film. Puis finalement, il bascule. Et en même temps, il gagne si facilement. Donc, on sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que c'est le héros du film? Est-ce que c'est pas le héros du film? Il y a pas assez de complexité autour de tout ça.
Alors, pendant qu'on parle des cons du film, puisque le mot est souvent revenu, mais sur Radio Balistique...
Je suis désolé, c'est moi qui ai commencé.
C'est vrai que t'as ouvert les hostilités. Est-ce que Chalamet va pouvoir porter ce rôle de con, en fait?
Ah oui. Ah, j'en ai aucun doute. Ouais. Et
c'est vraiment une question de jeu et d'acteur.
Ah
et de
oui,
ressenti.
non, mais tout à fait.
Il va être à la hauteur.
Il sera à la hauteur. Et d'ailleurs, Denis Villeneuve, il ne va pas faire le Messie tout de suite. Hein. Il a prévu de faire un autre film entre temps. Ce qui va permettre aussi à Chalamet de prendre un petit peu de bouteille, de vieillir pour que aussi.
Voire de prendre carrément le boulard. Et du coup, en fait, ça collera au personnage.
Peut-être aussi.
Il y a un peu de chance.
C'est vrai.
Peut-être
c'est
aussi.
Vrai. Même si ça n'a pas l'air d'être le style de l'humain, enfin, de ce qu'on voit pour l'instant.
Ouais, on lui souhaite de rester comme ça.
Oui.
Mais non, ça, j'ai aucun doute sur la performance. Déjà, par rapport au début de Dune 1 et la fin de Dune 2, l'évolution du personnage, elle est très très bien incarnée. Donc non, là, je pense que Chalamet fera le job, mais haut la main.
Ce que j'ai trouvé impressionnant, mais dès le premier volet, c'est ce mélange, pas millimélo, hein, vraiment mélange, mais intelligent, hein, finement maîtrisé, finement amené, d'histoire de microcosme et en même temps cette immensité du désert et au milieu